Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film en solo, bande-annonce.
Santé !
Je peux le temps de dis rien finalement.
Hey, I'm on. Un petit week-end.
Ah, Hassan, on a changé là. Hi, hi, bloc marché, toi.
Justement, c'est Benoît. Fais-moi un muscle pour les analyses.
حاجته بدون دورغان هذاك علاش حاطين السيراليز نتاعهم تاع الكريف نعرف اللي ثقافه التبرع بالاعضاء في تونس ماهيش موجوده زين متاخرين برشا هو
Un fils, film de Mehdi Mbarsawi avec Sami Wajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Kemeri et Noumin Hamda. Clément, je t'en prie, le pitch et tu peux foncer sur ton interprétation, une Parfait. Première analyse, ce que tu veux.
Donc ça se déroule en septembre 2011 en Tunisie pendant la révolution. Fares et Meriem sont un couple très très aisé. Et ils fêtent le nouveau poste de Meriem dans le sud du pays. Ils ont un enfant et ils décident de partir quelques jours en vacances, encore plus dans le sud, quand leur voiture subit une attaque terroriste. Le fils est très gravement blessé, il est emmené à l'hôpital public, ça va avoir une importance, et donc il est touché au foie très gravement, il doit y avoir une transplantation, une greffe. Et là, on est seulement à 10 minutes. On peut se dire donc un fils, ça va être le drame d'hôpital, les murs blanchis, la mélancolie, la tristesse. Mais il y a un twist dès la 10e minute qui vaut presque la vision du film. En fait, non, qui vaut la vision du film. C'est que le père se porte évidemment volontaire pour la greffe. Il y a des tests ADN et on apprend que ce n'est pas le père.
Ah!
Chouette ambiance.
C'est-à-dire le fils est dans le coma et le médecin le médecin demande à la femme de venir, Meriem de venir, et lui dit mais c'est pas le père. Et c'est là que le drame se noue.
Oui.
C'est-à-dire double drame.
Ouais, ils sont à l'hôpital public. Super chiant. Il y a des tickets et tout.
La bouffe est pas bonne. Et puis c'est pas le père.
Alors comment ça se joue le film à partir de ce moment-là?
Et ben à partir de ce moment-là. Le film est à la fois très malin et trop ambitieux. C'est donc un premier film. Je trouve que le cinéma maghrébin au sens général et même tunisien au sens plus particulier a une vraie vitalité en ce moment. Ces dernières années, moi j'ai beaucoup aimé ce Sortilège par exemple dont vous avez parlé la semaine dernière. Il y a aussi Mon Fils qui est sorti. Alors c'est Un Fils et Mon Fils.
Ouais.
C'est Weldy, le titre qui était sorti, qui était à la quinzaine des réalisateurs, qui était aussi un très beau film.
Peut lui passer.
Et il y a presque une patte qui est de vouloir représenter à travers, et souvent à travers l'idéal bourgeois, une forme d'impensé d'un pays qui est évidemment tiraillé entre la révolte et une forme de volonté de conserver aussi ses acquis. C'est-à-dire qu'on sent très bien que ce couple-là, en fait, s'en fiche complètement de ce qui est en train de se passer, et que de toute façon, ils évoluent dans des sphères, dans d'autres sphères. C'est-à-dire, on se moque beaucoup du personnage de Sami Bouajila dans le film parce qu'il parle pas très bien arabe.
D'accord. Ouais.
Il est revenu en fait de France, et donc c'est assez intéressant de montrer à travers un drame intime toute une forme d'impensée d'un pays, et en même temps, là, il y a un pur huis clos familial. Avec en plus un vrai mélodrame, c'est-à-dire comment annoncer que on n'est pas le père d'un enfant qui risque de mourir. Et que le fait qu'il y ait eu cette tromperie, qui est en plus le délit d'adultère illégal et passible de prison pour Meriem en question, comment ça peut s'insérer dans une forme de grande fresque sur la Tunisie. Et c'est un peu le problème, la qualité et le problème du film. C'est-à-dire que la qualité du film, c'est d'une force dramatique vraiment exceptionnelle. Surtout parce que le film fait le choix ambitieux et franchement casse-gueule de laisser très peu de possibilités de s'expliquer à la femme adultère. C'est-à-dire, c'est un fait. On apprend que il y a eu tromperie mutuelle, sauf que c'est elle qui paye en fait.
D'accord. Ouais. Et parce que le mec aussi avait trompé.
Le mec aussi, ouais. Et c'est lui, c'est le premier, quoi. C'est lui qui a commencé. Mais il dit, et il y a cette forme de virilité contestée aussi, puisque le personnage de Boisgilla dit oui, mais moi je te l'ai dit, machin. Et en fait, le fait que elle n'ait pas véritablement dans le film le droit de se défendre, ça lui donne, ça donne au film et au personnage féminin une prestance exceptionnelle, parce qu'il y a une forme de gratuité de l'acte qui rend ça, mais vraiment, c'est hyper éculé de reprendre voilà, cette idée vraiment du destin comme vraiment grand ordinateur, et en même temps, il y a cette gratuité, ça donne vraiment une dimension shakespearienne à ce huis clos. Et le problème, c'est qu'à un moment, le film sort du huis clos, parce que ça veut trop en dire, et ça part sur un thriller sur fond de trafic d'organes sur jeunes réfugiés.
Oui, c'est ce qu'on voyait dans la bande-annonce.
C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. Et oui. Et en fait, ça, c'est la dernière demi-heure. Il y a toute une forme de délire un peu film noir sur le trafic d'organes et sur la zone de non-droit que devient la frontière, une forme de zone tampon Tunisie-Libye, qui fait que la puissance dramatique est forcément diluée puisqu'on quitte ses parents qui sont toujours pris entre deux feux, c'est-à-dire protéger un enfant et en même temps régler ses comptes dans le privé.
Mais du coup, cette histoire-là ne se termine pas, c'est-à-dire qu'on ne passe pas dans un autre volet du film, ça continue en parallèle.
En fait, c'est deux chemins parallèles qui se rencontrent dans ce qui est souvent une bonne idée au cinéma, c'est-à-dire une fin ouverte, mais qui là montre plus un manque de teneur dans l'ambition. C'est-à-dire il y a plus vraiment de tenue, quoi. C'est plus mat.
J'ai l'impression qu'il soulève plein de sujets et qu'au moment de prendre position sur ces sujets-là, ça c'est un peu fébrile, quoi.
En fait, on dit souvent que dans un premier film, on a envie de tout mettre. Alors c'est un peu réducteur et en même temps c'est vrai, mais parfois on a envie de tout mettre parce qu'on ne sait pas si on va faire un autre film.
Oui.
C'est toujours un peu facile de dire.
Possible, oui,
surtout dans un, c'est quand même une économie qui est pas si simple que ça. Il y a énormément de coproduction. Si jamais une boîte coule, on n'est pas sûr de refaire un film. Donc c'est toujours un peu facile de dire qu'il a voulu tout mettre dans son premier film. Il a aussi voulu mettre ce dont il voulait parler, quoi.
Bien sûr.
Donc c'est très intéressant. C'est évidemment un pur film d'acteur. Boisgilla a eu un prix à Venise là-dessus. L'actrice féminine, j'ai pas son prénom, je suis désolé. Est vraiment excellente parce qu'elle a un rôle vraiment pas facile. C'est ce que je vous disais, c'est le personnage de Boisgilla qui a le beau rôle. Donc il faut quand même pouvoir tenir cette idée d'être une femme adultérine, mais qui n'est jamais jugée parce qu'il y a une forme de gratuité de l'acte qui est vraiment excellente.
Najla Ben Abdal.
Formidable. Qui a fait beaucoup de télé, qui c'est son premier grand rôle au cinéma. Okay. Donc voilà, bah écoutez, c'est une recommandation. Bah,
mais du coup, il survit ou pas le gosse ou c'est ça la fin ouverte?
Fin ouverte. Non.
Alors il y a quand même un peu de dialogue ou pas dans le film?
Je vais spoiler du coup. Alors le personnage de Boisgilla qui fait le deuil finalement de cette tromperie, quoi, qui vraiment le touche plus que de voir son fils mourir, quoi.
C'est sympa pour le fils.
il arrive quand même à faire ce deuil là il va chercher le père biologique,
ouais.
Le force quand même, franchement, à venir donner son foie, et le film s'arrête sur l'opération.
D'accord.
Et
d'accord.
Sur le premier regard entre les deux, entre Fares et Meryem, à partir du moment de l'annonce de l'adultère. Annonce de l'adultère qui est faite hors champ dans le film. Ce qui est très beau parce que...
D'accord, donc tu vois pas la réaction des deux directement.
Oui, ce qui est très beau, en fait c'est très intéressant, la porte se ferme et là tu sens qu'il y a une ellipse de plusieurs heures, voire même de plusieurs jours, ce qui évite la morve, les cris, les explications.
Tout ce qui n'est pas beau.
Non, mais surtout
tout ce qu'on a dans les drames français, les trucs sont balancés contre les murs et
donc,
tout.
Donc voilà, je trouve que c'est super bien de conseiller ce film alors que les cinémas vont fermer probablement dans deux jours. Mais de dire que... Le cinéma maghrébin a une véritable vitalité en ce moment, que c'est très intéressant, que c'est toujours imparfait parce qu'il y a parce que c'est souvent des premiers films un peu qui sont faits un peu dans l'urgence, mais une vraie révolution même cinématographique, ça se fait forcément dans une forme d'urgence qui passe par des
défauts. Et puis il y a le recul maintenant que les révolutions avortées, pas avortées, ont apporté quand même, et de quoi bâtir là-dessus des réflexions, parce que c'est le genre de bouleversement qui ça inspire pas en 30 secondes. Donc,
c'est pour ça que c'est, en fait, le côté drame bourgeois, c'est toujours un peu, ça m'embête toujours un petit peu dans un cinéma européen qui est un peu dans une forme d'entre-soi, où c'est un peu un précaré, alors que c'est toujours intéressant, dans ce qu'on appelle le cinéma du monde, fait des guillemets, hein, vraiment.
Oui, il fait des guillemets avec les doigts, je le certifie.
Du cinéma du monde pas occidental, parce que c'est comme ça qu'on.
Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est comme ça que c'est comme ça que c'est vendu un peu dans les festivals, quoi. C'est la caution du cinéma du monde. De montrer aussi que c'est toujours intéressant cette dimension bourgeoise. Parce que
oui.
L'ultra bourgeoisie, c'est toujours la représentation d'une pensée enfouie, quoi. Donc de montrer cette pensée enfouie. Et le patriarcat, de gens qui se considèrent comme évolués, mais qui sont bouffés par le patriarcat, par la virilité, le fait qu'on peut tromper sa femme, mais que l'inverse c'est chaud, mais... que évidemment c'est elle qui de toute façon est hors la loi.
Oui, mais bon, oui, mais on regarde la loi, oui, non.
Et aussi cette idée aussi d'une famille aisée qui va se heurter à ce qu'ils détestent, c'est-à-dire le fonctionnariat. Parce que ils vont être, le personnage de Boisgila va être happé un peu dans une forme de spirale avec une sorte de gourou maître d'une
secte.
Non, c'est pas une secte, c'est une clinique.
Ah.
Donc une espèce de gourou patron d'une clinique privée qui peut donc opérer son fils et éviter d'être sur liste d'attente. Mmh. Et ce qui montre bien, voilà, aussi toute une forme de cette dimension, la dimension mortifère aussi de l'argent. Qui oui. s'infiltre, voilà, jusque dans cette. Qui s'infiltre d'autant plus que le pays est vraiment en plein déséquilibre. Donc c'est ambitieux, parfois vicieux, non, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais dire.
Évidemment.
Mais si, en plus, c'est un peu. Parfois c'est un peu cynique, évidemment, ou un peu roublard. Donc, ces films-là usent parfois un peu de ficelle mélodramatique, un peu appuyée, mais c'est très. Ça donne de beaux espoirs pour l'avenir.
C'est parfait. Ça. Merci beaucoup, Clément.
Je t'en prie.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critiques, analyses, débats, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.